par ailleurs une thèse sur les mafias italiennes et enseigné au CERPAC. Enfin, Lucio Tinelli est écrivain et journaliste sicilien. Vous avez collaboré à de nombreux journaux italiens et avez dirigé les relations publiques et les relations presse de l'UNESCO. Citons deux de vos livres, Une saison sicilienne chez Flammarion et puis surtout le dernier, Un Sicilien à Paris, édité chez Fayard. Jérôme Pira, 43 ans pour trouver un parrain. Spontanément, on dirait, ça fait beaucoup. Mais peut-être que ma remarque est un peu naïve. Non.
Écoutez, en tout cas, en Sicile, ils sont assez nombreux à être en cavale depuis de longues années, puisqu'on parle de la succession, par exemple, de celui qui vient d'être arrêté, là, de Provenzano. Il y a deux noms qui sortent, qui sont au moins en cavale depuis 15 ans, les deux successeurs présumés. Donc 43 ans, effectivement, c'est une bonne moyenne, mais ça paraît assez étonnant pour nous, moins visiblement pour les Siciliens.
Est-ce que les spécialistes qui suivent ces questions-là se posent encore des questions sur, on va dire, les conditions de l'arrestation? Évidemment, c'est facile à dire après, mais ça a fait sourire tout le monde, parce que entre le nom du village, on va dire que finalement on l'a retrouvé chez lui,
d'une certaine façon.
La durée quand même de la fuite, tout ce qu'on lui prête, peut-être parfois même à l'excès.
Oui, bon, voilà. Un peu trop. La première question qui vient, c'est ce garçon a-t-il bénéficié de protection particulière? On peut le supposer maintenant, l'enquête nous le dira peut-être plus tard, mais pour l'instant on ne sait pas. Mais effectivement, il y a des mauvaises langues qui disent qu'il a sans doute été protégé pendant très longtemps. Il prenait quand même des précautions particulières, puisqu'on parle de ces fameux petits bouts de papier avec lesquels il communiquait à travers l'île via des messagers qui portaient comme ça sa bonne parole tapée à la machine de relais en relais. Donc visiblement, il y a des précautions. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on trouve toujours, c'est surtout la morale de cette histoire, c'est se dire, si cet homme a réellement été le parrain de tous les parrains siciliens, quelle est la finalité finalement d'une vie de criminel pour finir dans une bergerie pauvre et en pantalon de velours? Ce qui est à peu près le lot de tous ses prédécesseurs, puisque Totorina, on l'avait aussi retrouvé dans une piètre masure, enfin, etc. Ils ont des vies finalement assez simples, ils s'éloignent jamais tellement de l'endroit où ils sont nés. On a un peu l'impression que finalement c'est plus une question de pouvoir et de reconnaissance que d'argent, cette histoire de mafia.
Dans tout ce qu'on lit, Lucio Tinelli, sur l'homme qui vient d'être arrêté, finalement on a l'impression d'un personnage assez frustre, un peu ruste, j'allais vous dire un paysan qui aurait versé dans la mafia. Alors c'est de la caricature ou il y a de ça? Et puis c'est quand même extraordinaire qu'on puisse l'attraper.
Écoutez,
comme ça dans sa bergerie.
Ce qui me vient à l'esprit, c'est misérable et pathétique. Le personnage est misérable et pathétique. Les gens du gouvernement, ceux qui le combattent, sont misérables et pathétiques. Parce que nous dire qu'ils l'ont poursuivi pendant 43 ans et ne pas avoir honte, c'est misérable et pathétique. En fait, cet homme, il faut savoir que Provenzano, comme Rine, ce n'est personne. C'est un petit bonhomme, c'est une petite marionnette entre les mains des gens infiniment plus puissants que lui et des gens dont on ne dira, en tout cas, on ne peut pas dire le nom, car en fait, celui qui le poursuit est celui qui l'entretient.
Mais vous nous diriez pratiquement que le personnage qu'on vient d'arrêter, c'est un leurre?
C'est rien.
Enfin, un personnage de chiffon.
Mais c'est rien, c'est rien. Et dire qu'il a été trouvé dans ce petit bourge et que c'est là qu'il vivait, attendez, il faut être un naïf pour le croire.
Mais pardonnez-moi, mais vous voulez que je vous fasse la liste de ce qui lui est reproché, les crimes qui lui sont imputés, ce qu'il a commandité. Enfin, voilà, c'est troublant, ça perturbe ce que vous nous dites.
Mais non, parce que, attendez, pour qui l'a-t-il fait? Alors, il a travaillé aux ordres de qui? C'est ça qu'il faut savoir. Et on ne l'a jamais su. Est-ce qu'on vous a dit qui a tué Calvi sur le pont de Blackfriars à Londres, l'affaire Calvi, la loge P2? Est-ce que vous savez qui
l'a
tué?
C'est d'autant plus que ça m'intéresse vu que j'ai un nom en commun. Donc...
C'est la même. Oui. Eh bien, c'est la même filière. C'est la même chose. C'est le moment où la mafia s'est associé à la fameuse loge déviée, la loge P2. Alors, sur le moment, tout le monde nous parle de ça, et après, hop, tout disparaît et on passe à autre chose. Est-ce qu'on vous a dit qui a tué? Est-ce qu'on sait pourquoi Ali Aksa a tiré sur le pape à Place Saint-Pierre à Rome? Non, on nous raconte des histoires.
Mais attendez, vous pensez que c'est la mafia, là aussi?
Mais bien sûr. Je veux dire, il y a toute raison de croire que c'est la mafia, mais il y a Il y a une enquête qui a été menée par la magistrature avec des noms précis, avec des écoutes téléphoniques, des choses extrêmement pointues. Mais à la fin, on ne pouvait pas dire la vérité. Parce qu'une des choses qui nous viennent à l'esprit et que je crois vraiment possible, c'est que vous savez qui gérait l'argent du Vatican, de la Banque Ior, Monseigneur Marcinkus. Monseigneur Marcinkus oui. était lié à la mafia. En fait, ce qu'aujourd'hui nous appelons Cosa Nostra Mafia.
Vous vous rendez compte que la description que vous nous faites depuis le début de votre intervention, là, oui. on est rentré dans le Da Vinci Code. Vous comprenez bien.
Oui, sauf que le Da Vinci Code, c'est beaucoup d'imagination. Alors oui. que là, c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Et ceux qui payent le pot cassé, ceux qui souffrent de tout ça, ce sont les Siciliens. Parce que les Siciliens voient bien que tous ces gens et tous ces crimes sont parfaitement impunis.
On viendra à la situation, en effet, que connaissent aussi les Siciliens dans les reportages qu'on va découvrir dans cette émission. S'il faut quand même décrire un peu les états de service de l'homme qu'on vient d'arrêter, alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Qu'est-ce qu'on savait de lui, faute de l'arrêter aisément, Jérôme Pirat?
Qu'est-ce qu'on savait de lui? Ah bah, on savait surtout qu'il avait disparu, soi-disant, enfin, depuis 63, ouais. qu'on avait une vieille photo de lui, qu'on l'avait vieilli, qu'il avait reçu un coup de fusil pour chasser le sanglier il y a 40 ans, au cours d'une série de règlements de compte qui avait ensanglanté l'île. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis, qui serait devenu le régent à la capture ouais. du prédécesseur en 93, le fameux Totorina.
Fabrice Rizzoli, en même temps, l'enquête qui aboutit à cette arrestation, elle est longue, je veux dire, c'est... Voilà, on a travaillé.
Elle est très longue et j'aimerais avoir un point de vue entre les deux premières personnes qui ont parlé, c'est-à-dire que d'un côté, il est tout à fait vrai que 43 ans de cavale, c'est beaucoup, c'est un record. Et de ce fait, je crois pouvoir dire que jusqu'en 1992-93, déjà, il n'y avait aucune volonté politique de retrouver Provenzano. Tout d'abord parce que lors de la première République italienne de 1945 à 1992, il n'y avait pas vraiment de volonté politique de lutter contre la mafia. La mafia était alliée à une frange de la démocratie chrétienne. Une frange de la démocratie. Il y avait un canal de communication et d'échange de votes avec la démocratie chrétienne à Rome. Le but était que la gauche n'arrive pas au pouvoir. Et de 1945 à 1992, il n'y a eu que la démocratie chrétienne au pouvoir. Donc, d'accord jusqu'à cette période. Après cette période, il faut quand même remonter à 1992 où il y a eu du terrorisme mafieux en Italie. C'est pas que c'était vraiment une nouveauté, mais la grandeur et l'ampleur des bombes sur des sites historiques, touristiques, touchant des innocents à Florence et à Rome, c'était quand même impressionnant. Et le stratège de cette saison des bombes, comme les appellent les Italiens, c'est Totorina. Donc la magistrature, et cette fois un peu plus le pouvoir politique, a mis sa priorité sur Totorina. Et je constate qu'ils l'ont arrêté. Il était en cavale lui aussi depuis des années, mais ils l'ont arrêté. Donc à partir de 1993... Provenzano devient le chef de la mafia. Je crois qu'à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il était recherché. Mais alors, je crois que l'enquête policière, puisque vous m'avez posé cette question, remonte aux années 2000.
Jean-François Guéraud, est-ce que la notion autour de la mafia sicilienne, finalement, une société secrète, même si Lucio Tinelli allait encore plus loin il y a quelques instants pour nous décrire ça, ça correspond à vos yeux à une réalité, déjà dire société secrète oui. dans tous les sens du terme?
Il faut bien comprendre que l'arrestation de Bernardo Provenzano est un beau succès judiciaire, mais en définitive, sans grande importance. Je veux dire par là qu'un chef tombe, un soldat va tomber, mais il est immédiatement remplacé. Ce qui demeure, c'est...
C'est très démobilisant quand même, comme vous nous dites. C'est-à-dire souvent ce que disent les...
C'est-à-dire, ce qui compte, c'est de comprendre ce qu'est Cosa Nostra. C'est une société secrète, une société criminelle permanente, stable. Un chef tombe, un soldat tombe, ils sont immédiatement remplacés. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence entre une mafia, c'est-à-dire entre l'aristocratie du crime, et de simples gangs. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est analyser comment et pourquoi un homme peut, pendant 43 ans, échapper à la justice de son pays.
Oui, et là, vous me dites...
Il y a en fait deux séries d'explications, ce qui a déjà été dit. Il y a d'abord une longue histoire de collusion et de complicité avec une large frange de la démocratie chrétienne qui, en définitive, ne voulait pas réellement lutter contre la mafia. Et puis après la période en effet terroriste des années 90, il y a la difficulté à arrêter un homme qui, en Sicile, est chez lui. Il joue à domicile. l'État italien n'est qu'invité en Sicile. Le vrai pouvoir, la vraie puissance, c'est Cosa Nostra, de par ses relations politiques, de par ses capacités financières. Voilà.
Lucio Attinelli, vous vouliez intervenir?
Oui, il faudrait... Bon, pour que tout le monde puisse nous comprendre. Quand les militaires américains ont fait ce qu'ils ont fait à la prison d'Abu Ghraib, bon, on a condamné qui? Des soldats. Mais on a cherché aussi la responsabilité, venait d'où? Qui a donné l'ordre? Et on a trouvé... Enfin, on n'a pas vraiment... Là aussi, on a mis pas mal de flou. Mais au moins, qui, voilà. Au moins, disons que la démarche a été faite. Totò Riina, comme Provenzano, ce sont des soldats. Ce sont des soldats, il est peut-être le général de cette armée. Mais ce n'est jamais qu'un général d'une armée. Mais qui est à la tête? Cette armée travaille pour qui? Aux ordres de qui? Eh bien, ce que je prétends, et je suis sur ce que je pense, c'est que le pouvoir, la vraie mafia, la mafia n'est pas en Sicile. La mafia est à Rome. Parce que la mafia est l'associé et le soutien du... La mafia n'est ni de droite ni de gauche. La mafia est avec le pouvoir en place.
Elle vit pour ses intérêts.
Regardez, par exemple, on a parlé de Riina. Riina, bon, Provenzano, c'est clair qu'ils l'ont trouvé là parce qu'ils ne veulent pas dire où il était, ils ne veulent pas dévoiler sa maison. Bon. Mais Riina, ce n'est pas exact de dire qu'il vivait aussi, il était pris également dans une maison perdue comme ça. Pas du tout. Imaginez qu'en Palerme, je connais bien, c'est ma ville. Bon. Dans Palerme, Palerme est une petite ville, disons Bordeaux, d'accord? Bon. Oui. Vous imaginez dans Bordeaux une magnifique villa avec piscine. Si vous êtes à Bordeaux et vous voyez qu'il y a une magnifique villa avec une piscine, vous allez vous dire, mais qui est l'heureux...
Qui est le propriétaire?
Qui est le propriétaire? Qui habite là-dedans? Eh bien... Totò Riina habitait à Palerme, dans une villa splendide avec piscine, avait scolarisé ses enfants, et jamais une personne, jamais un flic n'a eu l'idée de dire « Mais qui est le bonhomme qui est là-dedans ?» Ils étaient personne, ils étaient seulement Totò Riina. Vous comprenez que ça ne peut pas se faire sans l'appui et la volonté de l'État. C'est ça qu'il faut. Voilà.
Nous allons passer maintenant au reportage de cette émission, puisque Agathe Lanté et Maxime Liogier reviennent de Sicile, où ils ont tourné les reportages que vous découvrirez dans quelques instants. Je vous rappelle que Bernardo Provenzano a donc été arrêté après 43 ans de fuite. Il était le parrain de Cosa Nostra officiellement depuis 1993. Certes, la mafia sicilienne n'est probablement plus qu'elle était, mais on affirme que 80% des commerçants de Palerme continuent néanmoins de se faire rançonner par elle. Agathe Lanté, Maxime Liogier.
Personne ne savait plus à quoi il ressemble, insaisissable. Après 43 ans de cavale, un visage enfin sur le chef suprême de la Cosa Nostra, la célèbre mafia sicilienne. La dernière photo remontait aux années 60. Aujourd'hui, Bernardo Provenzano est un parrain qui a vieilli, mais il garde de la mafia une tradition, celle du silence. Depuis son arrestation, pas un mot. Le chef de la police antimafia jubile. Ce n'est pourtant pas lui qui, depuis 43 ans, est la risée de la population. Lui est arrivé il y a 15 mois seulement, pour une enquête débutée il y a 14 mois. Et si l'arrestation de Provenzano a eu lieu le même jour que les élections en Italie, il ne faut y voir, dit-il, qu'une coïncidence.
Absolument un hasard, car nous avons eu la certitude que l'individu qui se trouvait à l'intérieur de ce repère pouvait être Provenzano à 10h30 environ le 11 avril. Juste le temps de nous organiser, parce que nous étions cachés en observation à quelques kilomètres de là, et à 11h17 ou 18, on a fait irruption.
Une victoire sur la mafia qui a connu, elle aussi, son heure de gloire. Comme ici, en 92, avec l'attentat du juge antimafia Giovanni Falcone. 1000 kilos de TNT sur la route de l'aéroport, 5 morts et plus de 20 blessés. Provenzano est alors deuxième de la Cosa Nostra. Un an plus tard, il en devient le parrain.
Questi sono Giovanni e Francesca insieme.
Pour la sœur du juge Falcone, qui dirige aujourd'hui une fondation antimafia, Provenzano a changé le visage de la Cosa Nostra. C'est lui qui a amorcé la nouvelle stratégie.
Ça a été fait par un peintre sicilien qui l'a peint avec le drapeau italien en mouvement sur le fond. pour montrer que la mort de Giovanni a provoqué une forte émotion dans la société italienne et surtout l'envie de changement.
E quindi la voglia di cambiamento soprattutto. Se prima l'atteggiamento era quello di manifestare.
Si avant l'attitude était de se manifester avec les attentats pour démontrer sa force à l'État. Maintenant, la mafia a pris une attitude différente, plus silencieuse, plus souterraine, comme le disent les magistrats. C'est-à-dire, la mafia fait ses affaires sans apparaître à l'extérieur pour éviter une répression trop forte.
Contre la loi du silence, la société civile se mobilise. La mafia s'est banalisée. À Palerme, 80% des commerçants payent le pizzo, le racket. Ce soir-là, après le spectacle, des bénévoles de l'association Adio Pizzo, créée il y a 2 ans, viennent vendre des t-shirts pour sensibiliser la population. Ils représentent la jeune génération, celle qui refuse de payer. Ils sont sur la liste, qui sera publiée le 2 mai prochain, celle des 100 commerçants qui luttent quotidiennement contre le racket, comme ce patron de bar.
Ils ont demandé à mon père de payer le pizzo, mais lui n'a pas voulu. Et pour cela, ils lui ont brûlé une maison et 2 voitures.
On en parle entre commerçants.
Les marchands en parlent de plus en plus, mais pas de manière ostentatoire, car la peur est grande. Et ce n'est pas simple.
Aujourd'hui, les magistrats sont toujours sous protection, mais ils parlent plus librement. Pourtant, beaucoup en Sicile craignent que la mafia ne reprenne du terrain après l'arrestation de Provenzano. 2 noms, 2 nouveaux parrains circulent déjà.
Première question de téléspectateur dans cette émission. Le parrain pourrait-il parler et faire de surprenantes révélations ? Comme on est très partagé par l'ensemble de ce que vous nous avez dit depuis le début de cette émission, on se dit, finalement, est-ce que c'était important de l'arrêter et est-ce qu'il peut servir à quelque chose, même si la pieuvre renaît toujours, pour quand même lutter contre elle? Qu'en pensez-vous, Jean-François Guéraud?
Premièrement, il était évidemment important et fondamental de l'arrêter, car quand on est en cavale pendant 42 ans, c'est une mise en échec de l'État, c'est humiliant quand même. C'est un problème quand même de légitimité et de respect de l'État. Deuxièmement, parlera-t-il ou ne parlera-t-il pas? Je l'ignore. Il faut quand même comprendre qu'une société de type mafieux, c'est le monde du silence et c'est le monde du secret. Bon. Et qu'on ne progresse dans la connaissance des mafias que grâce aux repentis, en effet, qui parlent ponctuellement. S'il parle, on apprendra probablement beaucoup de choses, mais seul l'avenir le dira.
Jean-Pierre?
J'arrive à peu près à la même conclusion. Difficile de savoir ce qui va décider ou non à parler ce monsieur. Il n'a pas vraiment, vu l'âge qu'il a, en plus, il n'a pas vraiment grand-chose à négocier. En plus, on le dit très malade. Il y a même qui susurre qu'il se serait rendu, voire qu'il aurait négocié sa reddition, voilà. Atteint d'un cancer de la prostate ou des choses comme ça. Bon, alors, bon, voilà, je ne sais pas du tout dans quelle mesure.
Moi, j'ai lu ça aussi, ça m'a stupéfait. J'ai dit, on sous-entend parfois que finalement, c'est lui qui s'est gentiment laissé capturer, parce que finalement, vaut mieux être à son âge et avec ce qui pèse sur lui, tranquillement en prison, pour soigner son cancer de la prostate. Ça ne vous surprend pas, vous?
Non, mais pas du tout, parce que, attendez. Moi, je vous donne des faits, hein. Ce n'est pas des hypothèses. Bon. On a arrêté Rina. Rina, d'autres ont dit qu'il était le vrai, le grand, parce que Rina était pire que Provenzano. On a arrêté Rina. Est-ce que je parle devant des gens qui savent? Vous imaginez qu'on arrête Rina. La première chose qu'il faut faire, c'est aller voir la maison où il habitait. Fouiller, regarder. Jamais un flic n'a mis les pieds dans cette maison. Jamais. Et donc maintenant,
vous... Il n'y a pas eu de mise sous séquestre.
Il n'y a pas eu de mise sous séquestre. Il n'y a pas eu de fouille. Les policiers ne se sont jamais intéressés à ce qu'ils pourraient bien avoir dans cette maison. Donc, est-ce qu'on a l'intention? Est-ce qu'on a intérêt à le faire parler? Est-ce que le fait qu'il parle ou ne parle pas vaut quelque chose? Là, vous avez déjà une preuve. La deuxième chose. Provenzano, je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous allez voir, Provenzano, dans pas longtemps, il va demander à se marier. Parce que le pauvre, vous comprenez, il vit dans le péché avec une femme à laquelle il a fait des enfants, et que maintenant, il faut quand même aussi penser, sans doute, à régler les problèmes de
succession.
Voilà. Donc, il va pouvoir se soigner et se marier. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit avoir en tête? Tout ce qu'il il doit avoir en tête, ceux qui devraient savoir ou le faire parler, ils le savent déjà. Ils sont partie prenante. C'est ça, c'est pour ça que les Siciliens sont désespérés. Là, par exemple, pardonnez, juste une seconde, après je m'arrête. Là, vous avez présenté la mafia assez, d'une manière assez restrictive, c'est-à-dire il pizzo, c'est-à-dire bon, le fait que les Siciliens de Palerme doivent donner un pourcentage à la mafia. Mais est-ce que vous savez que la mafia règne sur 500 milliards de dollars? Et ce sont les chiffres des Nations Unies, 500 milliards de dollars. C'est autre chose que les 450 qui doivent toucher à Palerme. Et ça touche autre chose que les habitants de la Sicile. Ça embrase le monde entier.
Avec quoi on amasse un pognon pareil?
La drogue, les armes. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il peut y avoir trafic d'armes, et je parle d'armes atomiques.
C'est aussi pessimiste, Jean-François Guéraud ?
Alors, les principales ressources de toutes les organisations criminelles qui ont un contrôle territorial fort commencent toujours en effet par le racket, donc le pizzo en Italie. C'est une activité fondamentale pour plusieurs raisons, le racket. Il faut y revenir. Pour deux raisons.
Oui, parce que d'abord, pour une raison. Ce n'est pas uniquement anecdotique. Enfin,
non, le racket n'est pas une activité.
C'est sans comme une mesure avec ce que vous venez de décrire, mais c'est une première étape.
C'est
exact.
Il faut bien comprendre le sens du racket. Il y a un sens économique et un sens politique. Le sens économique, c'est un flux financier permanent. L'assiette fiscale, parce que c'est un impôt parallèle et égal, ben, on prend de l'argent sur un peu tout le monde. Il n'y en a pas énormément, mais ça fait au final beaucoup de masse et de manière permanente.
C'est le parc-mètre, quoi. Ça tombe tous les jours.
Ça tombe tout le temps, y compris pendant les périodes de répression. Il n'y a pas beaucoup d'investissement, c'est pas risqué, c'est lucratif. Et puis, il y a une deuxième fonction qui est une fonction politique et symbolique. Qui prélève l'impôt est le seigneur. Ça démontre que le vrai pouvoir, c'est celui qui prélève l'impôt illégal. Vous comprenez? En Sicile, on paye souvent plus l'impôt à la mafia que l'impôt à l'État. Donc il y a un aspect de contrôle territorial et politique très fort. Et c'est pour ça que les gens qui refusent de payer le racket, le pizzo, sont assassinés. Ce n'est pas pour la somme modique qui est en cause, mais parce que c'est un affront au pouvoir criminel sur un territoire. Et ça, c'est fondamental. Donc d'abord, il y a le pizzo, le racket. Et c'est vrai pour toutes les mafias à travers le monde. Le deuxième grand flux, en Sicile, comme dans tous mes autres journaux, donc dans tout le sud de l'Italie, c'est le contrôle des marchés publics. Voilà. Et le détournement des subventions publiques. Il faut comprendre que dans une économie qui est sous-développée, largement administrée, qui dépend de l'argent ou de Rome ou des régions ou de Bruxelles, le détournement de l'argent public, ben c'est très gras. Voilà. Et puis troisièmement, ensuite, il y a tous les grands flux criminels internationaux, la traite des êtres humains, les armes, la drogue, etc., etc. Et puis à côté de tout, je veux dire, ces flux criminels et du racket, eh bien il y a le fait aussi qu'aujourd'hui, la mafia sicilienne et toutes les mafias ont investi dans l'économie légitime, que Cosa Nostra en Sicile est propriétaire d'entreprises normales, légitimes, légales, qui ont une activité économique et qui arrivent à conquérir des marchés bah parce qu'elles font peur. Imaginez deux entreprises de bâtiments et travaux publics, l'une normale, dirigée par vous, et puis une autre qui est en odeur de mafia, hein, qui est associée à une famille, par exemple, de Trapani ou de Palerme.
Au 2000 ans.
Bah, à un moment donné...
Vous allez recevoir le devis... Vous allez plutôt choisir l'autre, c'est ça? Pourtant, j'ai fait de gros efforts pour vous faire des prix.
Je pense qu'on peut être tenté de choisir celle qui est en odeur de mafia, même s'il n'y a pas de menace et d'intimidation.
On parle d'un grand pays européen qui est devenu la cinquième puissance industrielle au monde, qui nous étonne, nous, en France, très souvent par des aspects de modernité formidables. Et ce que vous venez de décrire semble, on va dire, quasi moyenâgeux. Alors, est-ce que c'est ma vision des choses qui est moyenâgeuse, ou est-ce qu'il faut simplement accepter cette idée que, même dans l'Italie contemporaine, aujourd'hui, on vive comme vous venez de nous le décrire?
Les mafias sont des entités très modernes, hyper modernes. Ce sont des réalités suradaptées à la mondialisation et au XXIe siècle. Nous avons souvent, de l'ensemble des mafias de Cosa Nostra en Sicile, une vision ringarde, folklorique, datée, à cause du cinéma très largement et à cause des reportages, parce qu'on ne s'intéresse à ces réalités que lors d'un fait divers, comme par exemple au moment de l'arrestation de Bernardo Provenzano. On n'en voit pas l'hyper-immersion dans le capitalisme et dans l'économie mondiale. Voilà. Ce sont des puissances économiques qui savent aujourd'hui gérer la mondialisation.
Jérôme Pierrat, pourquoi il y a des régions finalement où il y a des mafias et d'autres pas?
Je dois bien vous dire que c'est le grand mystère. Hein, voilà. Parce que, du mal à comprendre sur l'échiquier mondial, pourquoi c'est né à tel endroit et pas à un autre. Alors pourquoi le Mezzogiorno italien? Pourquoi le Japon? Pourquoi la Chine, pour parler des classiques? Pourquoi plus récemment en Turquie ou dans les Balkans, ou, même si on n'est plus vraiment dans la mafia traditionnelle, mais dans le gang criminel, etc. Alors il y a plein de pistes, hein, là où l'État central est moins présent, il y a une justice de substitution qui se met en place, un pouvoir local. Donc voilà, mais effectivement ça n'explique pas tout. Donc franchement j'ai pas la réponse et je l'ai jamais trouvé dans aucun ouvrage ou chez aucun chercheur. Hein, donc je pourrais pas vous dire.
Fabrice Rizzoli, c'est peut-être ça aussi qui justement nous perturbe, c'est ce qui vient d'être décrit et le fait qu'on se dise qu'aussi, moi je suis allé à Palerme, voilà, les enfants vont à l'école, il y a des aspects de grande modernité. Je rappelle qu'on parle d'un pays, même si c'est une région, on va dire, qui a ses particularismes, voilà, qui est un grand pays européen, même si en France on a longtemps eu à mon avis un complexe de supériorité infondé,
oui.
Voilà.
Oui, c'est un grand pays, mais c'est un grand pays divisé en deux, voire en trois. Vous avez le nord qui est très industriel, vous avez le centre qui a fait la fortune de l'Italie des années 80, d'une espèce de second miracle économique avec les PME-PMI. Puis vous avez le sud, qu'il ne faut pas toujours voir effectivement comme arriéré. Le taux de chômage y est plus élevé, mais pas beaucoup plus que les 10% que nous avons, nous, ici en Allemagne, etc. Ensuite, vous avez aussi le particularisme de l'île. La Sicile, c'est une île. Les mentalités y sont parfois plus rustres de ce fait. Aussi, dans les montagnes de l'Aspromonte, en Calabre, on retrouve des choses que vous devez bien connaître. Mais je crois aussi que c'est pas si arriéré que ça, dans la mesure où la Sicile a toujours été quand même une île pauvre et riche à la fois. Riche au XIXe siècle par ses agrumes qu'elle exportait déjà aux États-Unis. Donc Palerme est un port international qui a toujours géré du flux. Donc il faut effectivement pas toujours exagérer. Pour revenir sur les causes, il faut très certainement effectivement ne pas s'arrêter à une cause. Comme souvent en matière d'explications historiques, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs sociologiques. L'État central n'était pas présent, a beaucoup délaissé la Sicile. Et on peut dire qu'à un moment du processus historique au XIXe siècle, alors que dans d'autres États, la bourgeoisie prend le pouvoir, eh bien en Sicile, c'est une autre forme de bourgeoisie qui prend le pouvoir, fait de la nouvelle bourgeoisie, fait des notables qui ne veulent pas perdre la propriété privée, des grandes propriétés, des latifundi ou latifundium, et en même temps les mafieux qui ont été employés comme milices privées. Le tout forme ce qu'appelle le plus grand spécialiste de la mafia, un sociologue, Umberto Santini, la bourgeoisie mafieuse. Et c'est au sein de cette bourgeoisie que Provenzano a pu faire sa cavale.
Lucio Tinelli, quand vous étiez petit garçon, vous avez été élevé à Palerme.
Bah, bien sûr.
On vous disait, lui, c'est une famille de mafieux, celui-là joue pas avec.
Mais oui, mais on connaît. Écoutez, ça va beaucoup plus loin. Un jour, je me suis trouvé, c'est une longue histoire, et puis c'est personnel, il y a la télévision française qui était venue à Palerme m'interviewer. J'y ai pas cru, donc le journaliste était Jérôme Camilli, de A2. J'y ai pas cru. Et à la fin, quand j'ai vu qu'il était vraiment venu pour faire un reportage sur moi, je me suis senti mal à l'aise. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai dit, il faut lui donner quelque chose. Alors je l'ai présenté à Chache. J'ai fait une interview de Chache qui refusait les interviews. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, un ami d'enfance. Et je lui ai dit, écoute, voilà, c'est un journaliste, c'est un ami. Qu'est-ce qu'on peut lui faire un scoop, quelque chose d'important. Et le Sicilien m'a dit, mais dis-moi, c'est un ami ou un ami? Moi, je dis non, c'est un ami. Il me regarde et me dit, écoute, tu devrais dire à ton ami de interviewer vite le général à la chiesa, parce que c'est un cadavre qui marche. Jérôme Camilli, malheureusement, bon, il a demandé l'interview, c'était les vacances, il a attendu 3 jours, le général à la chiesa a hésité, et Jérôme Camilli a laissé tomber, il est rentré en France, et la chiesa a été abattue.
Vous devriez donc vous inquiéter de vos amis d'enfance, si je puis me permettre. Parce que...
Mais non, mais vous savez, c'est pas... Mais non, mais ça n'a rien à voir. Ce sont des gens qui savent. Là, vous savez, c'est... La rue, c'est... La rue... Vous êtes en train de parler, par exemple, de Corleone, de ce qui se passe actuellement.
On va y aller
hier, ils ont projeté un film, Miracle Corleone, quelque chose comme ça, à Palerme. Et dans ce film fait de bouts de reportage, il y a un officier des carabiniers qui dit directement, il dit, oui, moi j'étais là en train de, j'allais arrêter Rina, mais on m'a donné le contre-ordre, on m'a dit surtout ne bouge pas. Et ça donc Palerme le sait. Mais je voudrais juste dire une chose, on est en train de limiter, de faire voir la mafia comme une affaire sicilienne, régionale, petite.
Ah non, vous avez été très clair.
Je vous ai dit, pensez aux 500 milliards de dollars que l'on parle des Nations Unies, et pensez aussi une chose, c'est que aujourd'hui, il y a l'influence de la mafia dans le monde entier est colossale. Pensez que quand la Chine de Mao, quand Chiang Kai-shek s'est opposé à Mao pour la fameuse longue marche, il s'est appuyé sur qui, Chiang Kai-shek? Sur les triades. Les triades, c'est une mafia chinoise. C'est le même principe. Ça dépasse largement, aujourd'hui, ça dépasse, mais de loin, le cadre sicilien. Et c'est pour ça que les Siciliens sont désespérés, parce qu'ils portent tout le poids de cette ignominie, alors qu'ils y sont pour rien, et surtout qu'ils ne peuvent rien faire.
Alors avant de revenir justement au fameux village de Corleone, nous allons prendre un peu de recul et parler de la situation de cette île, en l'occurrence de la Sicile. L'Etna, Syracuse, la mer, la Sicile est une île somptueuse, 10% du patrimoine protégé de l'UNESCO en Europe se situe en Sicile, un potentiel gigantesque et finalement peu exploité. Certains disent à cause ou grâce à la mafia, c'est comme vous voulez. Reportage Agathe Lanté, Maxime Liogier avec David Doucan.
Palerme, capitale de la Sicile, une réputation sulfureuse alliée à un potentiel touristique comparable à celui des plus grandes villes d'Europe. La Sicile, c'est un patrimoine culturel antique d'exception et des espaces naturels uniques au monde. La Sicile, c'est à elle seule 10% du patrimoine protégé par l'UNESCO dans toute l'Europe. Et pourtant, presque aucun hôtel de luxe, pas de grand complexe ultra-touristique. Voici l'un des rares grands hôtels en bord de plage. Cet homme dirige l'établissement. En Sicile, le tourisme, c'est une activité mesurée, dit-il. Nul besoin de développer à outrance quand cela rapporte déjà suffisamment d'argent.
Nous n'avons pas des grands groupes. L'hôtellerie sicilienne est faite de beaucoup de familles avec un hôtel, quatre hôtels, trois hôtels. Alors, on n'a pas la force de faire en grande compagnie avec beaucoup d'hôtels parce que le travail quotidien, c'est suffisant et c'est beaucoup plus que suffisant pour vivre, pour faire les choses. Il ne reste pas de temps pour faire des autres choses. C'est un système petit, ça c'est vrai.
Le tourisme, contrôlé par les familles. Réalité ou euphémisme pour parler d'une autre activité familiale, celle de la mafia. Francesco Termini loue des appartements à Cefalù. Ce village balnéaire compte 14 000 habitants en hiver, 120 000 en été.
Ça, c'est la cathédrale. Et on est au centre de la ville de Cefalù. La mer, c'est en face.
C'est en Sicile que s'est installé le premier Club Med en Europe. C'était en 1953, puis plus aucun grand complexe n'a été construit pendant 50 ans. Pour ce professionnel du tourisme, les investisseurs étaient échaudés par la réputation de l'île.
Parce que c'était dur d'investir. Tout le monde pensait qu'il y a la mafia, c'est difficile de travailler. C'est ça. Alors les grands groupes, ils ne veulent pas investir. Pourquoi ils doivent investir ici? Ils vont investir dans un autre pays qui c'est plus simple d'investir. Je pense que c'est ça. Maintenant que la mafia s'est terminée, c'est tranquille de vivre ici, c'est tout normal, il y a des grands groupes qui sont venus ici.
Léo Luca Orlando est de retour chez lui. Cet ancien maire de Palerme est aujourd'hui le bras droit de Romano Prodi. Pendant 20 ans, il n'a pas pu mettre les pieds dans son petit village, car son petit village s'appelle Corleone et sa tête y était mise à prix. Depuis quelques années, les choses ont changé. La menace s'est adoucie, alors sous bonne garde, il revient profiter du calme de sa Sicile natale. Mais pour lui, la mafia reste aux commandes du tourisme local.
Un esempio molto semplice. Io parlo di nuova tangente.
Il y a maintenant un nouveau genre de pot de vin. En fait, souvent, vous avez un homme politique élu qui est en même temps associé d'une compagnie hôtelière. Ou alors associé d'une clinique privée.
Questa è la nuova tangente.
C'est ça le nouveau pot de vin. Du coup, l'élu subventionne un hôtel, par exemple, avec de l'argent public, et le reste du financement vient de l'autre associé, qui lui est un mafioso.
Ma l'altro socio è il mafioso.
Ces dernières années, quelques groupes touristiques comme Pierre et Vacances ont investi dans l'île. Peut-être le signe d'une évolution du crime organisé, peut-être aujourd'hui plus ouvert à l'arrivée massive de capitaux étrangers en Sicile.
Alors, on a une question très intéressante de nos téléspectateurs, mais juste pour vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage, on a quand même les deux premiers intervenants. Le premier nous dit, oh, vous savez, chez nous, l'hôtellerie, c'est familial, c'est... voilà. Et l'autre qui nous dit, mais finalement, les grands groupes, ils préféraient aller investir ailleurs parce qu'ils étaient un petit peu inquiets. Ça vous fait sourire? Comment vous réagissez? Enfin, il y a des sous-entendus, Jean-François Guéraud.
Oh bah, il est évident qu'il y a...
Directeur d'hôtel, là, qui nous dit, vous savez, chez nous, c'est familial.
Alors, il faut comprendre le sens du mot famille. Il y a la famille biologique, votre famille, ma famille, mes parents, mes cousins. Et puis, dans toutes les mafias, et en particulier en Cosa Nostra, le mot famille a un autre sens. C'est sous-entendu gangue criminelle. C'est une famille construite, faite d'initiés criminels. Donc, quand ce Sicilien ou d'autres parlent de famille, il y a toujours ce double sens. Alors, quand on investit...
Donc, il envoie un message.
Il envoie un message pour les initiés. Oui. C'est un clin d'œil. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est
Donc, cela, ça veut dire que les mafieux qui sont en train de regarder notre émission, ils se tapent sur les cuisses, et ils rient en disant, oh, ben, ce qui est drôle...
Bah, bien sûr. Bon. C'est évident. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut investir sur une terre criminalisée et une terre dominée par une mafia. Mais il faut simplement comprendre les règles du jeu et comprendre qui dirige réellement. Frapper à la bonne porte, investir avec le bon associé local, ne pas se tromper, sinon vous êtes rappelé à l'ordre. Voilà.
Moi, je pense que si Rome voulait, la mafia n'existerait plus. Mais Rome n'a jamais voulu. Parce que nous, depuis les temps des Romains, la Sicile a toujours été le grenier de l'Italie. Cette région doit rester pauvre. Parce que nous devons être exploités par Rome. C'est ça, le problème.
Alors, Lucio Attinelli, du coup, je vais vous poser la question de téléspectateurs. Ça va vous permettre d'aller un peu plus loin. Le Sicilien ordinaire est-il fier de la mafia de son île ou la combat-il?
Il n'est pas fier, il est parfois dupe. Il ne peut pas la combattre parce qu'il sait qu'il n'est pas armé pour. Quand il voit Rina se promener dans Palerme et habiter dans la plus belle villa de Palerme et que personne ne le touche pendant 23 ans, quand il voit que Provenzano se promène à droite à gauche pendant 43 ans, vous imaginez que le Kidam s'amuse à lutter lui tout seul contre la mafia. Mais c'est utopique, c'est pas possible.
On tue encore en Sicile, il y a des règlements de compte réguliers, enfin, je veux dire, il y a des morts, on ramasse des gens dans la rue, c'est une...
Il y a eu des règlements de compte comme ça, mais encore une fois, ce sont des clans entre eux. Mais la tête politique, celle qui permet à ces clans d'exister, c'est qui les couvre. Oui. Attendez, je vous dis juste un truc. Vous pensez, ça me fait penser au Mollah Omar. Vous vous souvenez quand en Afghanistan, il y avait Ben Laden et le Mollah Omar. Oui. Le Mollah Omar, borgne. Hein, cherché par l'armée du plus puissant pays du monde, l'Amérique, plus les Français, plus les Anglais. La terre entière a cherché le Mollah Omar. Et qu'est-ce qu'il fait, le Mollah Omar, il prend une mopette et se tire. Franchement, est-ce que vous y croyez, vous?
C'est un grand pays, l'Afghanistan.
C'est quand même. Oui, mais enfin, attendez, c'est quand même.
En revanche, une île, c'est plus réduit. Et voilà. Du coup, excusez-moi. Non, mais j'ai quand même une question à vous poser. Oui. Je trouve que vous disculpez beaucoup vos concitoyens, même si on peut comprendre qu'ils subissent.
Non, je disculpe pas. Mais
vous expliquez, c'est Rome, c'est les Milanais, etc.
Non, c'est pas les Milanais.
Dans la vie, on ne fait pas que ça.
Écoutez,
subir.
Je vous donne un exemple. C'est difficile. Hier, la politique est. Dominait la mafia et la mafia essayait de jouer avec. Bon, aujourd'hui, la politique fait la mafia. Je vous raconte une histoire personnelle, dans l'esprit de ces messages subliminaux qui sont envoyés comme ça. Un jour, je vais avec ma femme en vacances à Palerme et je vais dans le fameux triangle de la mort qui se trouve à l'Aspre, Porticello, tout près de Palerme. Bon, où il y a un restaurant très connu, magnifique, à bord de mer. Une merveille. Bon, et tout le monde sait, parce que à Sicile, tout le monde sait que le patron est un mafieux. Bon, nous sommes au mois d'août. À Palerme, en Sicile, au mois d'août, il fait 45 degrés à l'ombre. Et il n'y a pas beaucoup d'ombre, d'accord? Cet homme me reçoit, je le regarde, je suis stupéfait. Il a une chemisette à manches courtes et une cravate. Une cravate. Et cette cravate, il y a écrit « Forza Italia ». Ça veut dire quoi, d'après vous? Ça veut dire « Nous, on est avec eux. Nous, on vote pour eux, donc vous, vous devez voter pour eux. »
Vous vous rendez compte, ce que vous venez de dire, ça va beaucoup plus loin pour un Français qui vous écoute, parce que vous finalement, pardonnez-moi, allons au bout de l'arrière-pensée, si je puis dire. Est-ce que c'est en effet à Rome, à Milan et dans les grandes villes italiennes aujourd'hui que les vrais manipulateurs se trouvent? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous nous dites, mais le premier d'entre eux, c'est Silvio Berlusconi? Enfin voilà, est-ce que c'est de cet ordre-là, l'analyse que vous faites de la situation? Même si le nom que j'ai cité n'est pas le bon. Ou peut-être le bon,
le nom que vous avez cité est particulier. Mais vous avez dit la vérité.
Et là, vous nous faites l'omerta, là, maintenant.
Pardon?
Vous nous faites l'omerta, maintenant. C'est le silence.
Mais non, mais attendez une seconde. Quel silence? Je suis en train de vous dire comment les choses se passent.
Fabrice Rizzoli.
Voilà.
Oui, mais je pense que c'est toujours pareil. Il y a plusieurs niveaux. Alors, je vais quand même juste... revenir aux Siciliens pour dire que Provenzano, qui peut-être n'est pas très intelligent, son chef à l'époque disait qu'il tirait comme un dieu au pistolet, mais qu'il avait le cerveau d'une poule. Je constate simplement...
Sa qualité était ailleurs. Donc.
Oui, bah oui, mais je constate simplement qu'en ayant pris la tête de Cosa Nostra en 1994, il a fait une stratégie de l'immersion et de l'infiltration de l'organisation. C'est plutôt brillant ce qu'il a fait parce que comme l'État mettait en prison des mafieux pour la première fois, réellement et en nombre, il a fait taire les mafieux en prison et il leur a dit, voilà, ceux qui se font prendre et ceux qui restent gèrent les affaires. Et les repentis, on arrête de massacrer toute leur famille, oui. Ce que faisait Totorina. Oui. Première stratégie au sein de l'organisation. Deuxième stratégie, pour parler des Siciliens, le racket, il l'a généralisé. Pourquoi il a réussi à faire ça? Parce qu'il a baissé les sommes du racket. Il a dit qu'ils payent moins, mais qu'ils payent tous. Et au bout du compte, je rebondis sur l'argument de notre brillant auteur du livre du géopolitique des mafias, puisque au fond, c'est un argument géopolitique. En les faisant tous payer, il contrôle le territoire. Il peut aller se cacher partout là où les gens lui payent l'impôt mafieux, partout là où il y a donc des, au minimum, complicités passives, pour parler du Sicilien de base, et des complicités actives, là je rejoins tout à fait mon autre interlocuteur, avec certains membres politiques du parti de Silvio Berlusconi, mais du centre droit en général, qui effectivement ont tissé des liens depuis 1993. Ça c'est vrai, il y a la magistrature qui l'a démontré.
Ça veut dire qu'on ne se cache pas, moi c'est ce qui me frappe dans tout ce que vous nous dites. À part peut-être les quelques têtes pensantes, on a l'impression que tout ça est fait globalement...
N'exagérons rien.
Mais Andreotti a eu un procès...
N'exagérons rien, on ne se cache pas. Monsieur qui a vécu en Sicile nous dit, c'est un ami à toi ou c'est un ami? C'est un ami ou c'est un ami? En fait, la question, c'est est-ce que c'est un ami à toi ou un ami à nous? Si c'est un ami à toi, c'est que ton ami. Si c'est un ami à nous, ça veut dire qu'il fait partie de l'organisation ou qu'il est complice.
Non. Mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui on doit faire quelque chose?
Voilà, exactement.
Pour qui
alors,
on doit
l'idée,
faire
quelque chose? C'est simple, c'est que si on emploie ce langage-là, c'est qu'on se cache un petit peu quand même.
Bah oui.
Si pendant 43 ans, il fuit... c'est qu'il se cache un petit peu. Et là, il vivait quand même bien, au milieu d'une bergerie, dépourvu de tout, même s'il est milliardaire.
Donc là, vous nous dites qu'il ne faut pas caricaturer.
Mais la bergerie est bidon. C'est la première fois qu'on fait venir à la presse et tout le monde visiter cette bergerie, alors qu'on n'a pas fait le tiers du quart, du millième, avec la maison de Totorina.
Alors,
ils l'ont monté.
Oui, allons-y, la maison de Totorina.
Alors, il a tout à fait raison sur la maison de Totorina. Voilà ce qui s'est passé. Il a été arrêté au mois de janvier 1993. Parce qu'un repenti, son ancien chauffeur, aurait parlé, etc. Mais il y a eu effectivement d'abord un concours entre les différents services de police. Je parle sous le contrôle de monsieur, ça arrive. Ensuite, finalement, c'est les carabiniers qui ont le dernier mot, parce que le capitaine Ultimo, qu'il a arrêté sur le trottoir face à sa maison, était le mieux placé, était celui qui le connaissait mieux, etc. Très bien, mais il est vrai que le colonel de carabinier qui commandait le groupe des gens qui surveillaient la maison de Totorina, à partir du moment où Totorina était arrivé, si vous volez une pomme, en gros, on perquisitionne votre domicile, j'exagère, et le chef de la mafia, lui, on l'arrête, on ne perquisitionne pas le domicile. Et
jamais
toutes les preuves ont été détruites.
Jamais.
Ça, c'est très grave, et on peut se poser des questions, mais...
Dernier reportage de cette émission, nous partons à Corleone, un lieu quasi mythique, le village de tous les villages. Il a même donné son nom au personnage joué par Marlon Brando au cinéma. Sur place, vous allez le voir dans les témoignages que nous avons recueillis, une omerta cynique et plutôt décontractée. Le maire de la ville nous l'affirme, il n'y aurait plus de mafia et d'ailleurs lui-même a préféré ne pas vivre sur place. Reportage à Corleone, Agathe Lanté, Maxime Liogier.
Corleone, en terre sicilienne, le berceau de la Cosa Nostra. Et à quelques centaines de mètres, la bergerie où le parrain a été arrêté après 43 ans de cavale. Planqué au milieu des chèvres, sans voir le jour pendant au moins un an, et pourtant pas vraiment isolé, au moins une trentaine de voisins, sans compter tous ceux qui venaient ici tous les jours acheter leur ricotta. Lui est même venu quelques minutes après l'arrestation de Provenzano. Rien vu, rien entendu. D'ici, on voit la bergerie où était Provenzano.
Oui, c'est celle-là, là-bas, où il y a la lumière allumée.
Et lei sapeva che era qua?
Et vous saviez où était Provenzano?
Non.
Non. Comment j'aurais pu le savoir? Même l'État ne le savait pas.
Personne ne le savait?
Non, personne.
Corleone, le village où tout le monde sait, mais personne ne voit rien. Francis Ford Coppola a été bien inspiré, c'est ici que Le Parrain a été tourné. Le maire, lui, voudrait plutôt tourner la page et afficher une nouvelle image.
Gardez l'œil vif, moi la tête haute. C'est un endroit qu'on a fait peindre pour représenter des coins de Corleone. Des monuments, et tout cela a été très apprécié.
Une image tranquille.
Tranquille, tout à fait. Et là, nous avons des scènes de la vie de Corleone.
Il préfère nous montrer les initiatives artistiques réalisées depuis 4 ans sous son mandat. Pour lui, toute cette mafia relève de l'histoire ancienne. Il y a encore des grandes familles mafieuses à Corleone ?
Non, plus désormais. Avec l'arrestation de Provenzano, toutes les familles ont été arrêtées. Donc la grande mafia est finie.
Un peu d'histoire et suite de la visite guidée culturelle.
Celle-ci était la maison de l'ancien parrain Toto Riina.
Une villa qu'il a transformée en siège de la brigade financière pour le symbole, mais la bonne volonté a des limites. Et vous savez où est la maison de Provenzano où il a été arrêté ?
Malheureusement, elle se trouve à 2 km d'ici. Mais on ne peut pas y aller, car la police a bouclé le périmètre pour l'enquête.
Et vous pouvez nous montrer ?
Non, pas précisément, je ne saurais pas vous y emmener.
Les habitants non plus ne se montrent pas vraiment coopératifs. Si le maire fait bonne figure et que dans les cafés, on fait mine de revendiquer un passé mafieux, certains font encore les frais d'une mafia qu'ils qualifient d'omniprésente.
Il est difficile de lutter contre la mafia à Corleone, comme dans la Sicile tout entière. Car la force d'intimidation, la violence de la mafia conditionne à tel point qu'elle fait peur. Par exemple, le siège du journal Città Nuova a été incendié en 1991, pour faire un exemple. Et le 28 février dernier, ma propre voiture a été incendiée pendant la nuit.
Signe tout de même que les temps ont changé, ces collines autour de Corleone, réquisitionnées à la mafia. Aujourd'hui, on y fabrique des pâtes et du vin estampillé anti-mafia. À qui appartenaient ces champs ?
Ça appartenait à Brusca, le chef de la mafia San Giuseppe Iato, celui qui a dissous un enfant dans l'acide dans les années 80. Nous avons un label indiquant que le vin provient d'une terre confisquée à la mafia.
Parce que vous pensez que la mafia est toujours présente ?
Bien sûr qu'elle est présente. Et ça ne va pas s'arrêter avec l'arrestation de Provenzano.
En plein cœur du village, la maison où habite la femme de Provenzano. En face, un restaurant. Et même si là encore, les propriétaires n'ont rien à dire, les enfants, eux, jouent au parrain, le nouveau jeu vidéo inspiré du film de Coppola.
Nouvelle question de téléspectateur. Quelle différence y a-t-il entre la mafia et la Camorra?
Il y a une différence géographique, surtout, déjà, pour commencer. Parce que la Camorra, c'est à Naples, et donc la mafia en Sicile. Et puis, il y a quand même une différence structurelle, c'est que la Camorra est quand même beaucoup moins organisée que la mafia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instance suprême comme la coupole en Sicile. Pour preuve, en 2004, il y a eu des guerres intergangs à Naples qui ont coûté la vie à, je crois, pas dire de bêtises, 100-150 personnes, chose dans l'année. Donc, effectivement, la Camorra à Naples, c'est très désordonné, très anarchique. C'est plutôt des entités criminelles, des familles, mais qui ne sont pas centralisées et non soumises à une autorité suprême.
Est-ce qu'il y a des luttes et des affrontements entre, par exemple, la Camorra et Cosa Nostra? Est-ce que les grandes familles finissent par s'affronter ou pas? Ou la raison domine, si je puis dire, dans le partage du territoire et du business?
On peut dire que chaque mafia domine son territoire, sa géographie, et les différentes mafias entre elles, c'est-à-dire la Camorra, la Sacra Corona in Italia, la Drangheta, Cosa Nostra et les autres, ont plutôt des attitudes de coopération et d'échange entre elles. Donc il y a rarement de grands affrontements. Voilà.
Il y a un cas qui peut être intéressant, c'est le fameux futur pont qui va relier la Sicile à l'Italie continentale, puisque dans le pont de Messine, puisque là, il se dit que d'un côté, il va y avoir la Cosa Nostra qui va intervenir sur le marché, et puis de l'autre côté, la 'Ndrangheta calabraise qui, depuis Reggio di Calabre, va faire l'autre moitié. En gros, que là, il y a sans doute une petite association de bonne intelligence.
Oui, pour nos téléspectateurs, il a bien été dit ici que la spécificité d'une mafia, c'est le contrôle du territoire. Oui. Donc, chacun chez soi, Cosa Nostra en Sicile, la Camorra à Naples, etc. Si il doit parfois y avoir collaboration, voire confrontation, c'est sur des territoires vierges ou ailleurs. Alors par exemple en Italie du Nord, c'est très intéressant de voir que les immigrés du Sud ont parfois colonisé, permettez-moi, entre guillemets, des quartiers de Milan, etc., et qu'ils se sont répartis le territoire entre la 'Ndrangheta calabraise, la Camorra de Naples, etc. Mais en définitive, il n'y a pas beaucoup de confrontations, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux pour l'immensité du territoire, il ne faut pas exagérer. Et enfin, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que lorsque les Balkans ont implosé et qu'on a vu énormément d'Albanais arriver en Italie, etc., moi-même qui m'intéressais déjà à la question, je me suis dit, en Italie, avec des mafieux quand même aussi proches de leur territoire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vraiment, à notre grande surprise, et je rebondis, une collaboration étroite entre clans albanais, même on dit que c'est une mafia, mais je ne suis pas non plus le spécialiste, une collaboration incroyable, une division de la chaîne du commerce du crime, si vous voulez. Donc, les Italiens ne font pas de prostitution. Donc, moi, j'ai le territoire de Milan. Je suis calabrais, j'ai le territoire de Milan. Je te laisse mettre les prostituées que tu exploites et que tu viens pour prendre de l'Est. Et en échange, nous faisons du trafic d'héroïne, puisque l'Albanie est sur la route des Balkans de l'héroïne, etc. C'est un trafic d'armes, etc. Une chose, mais vraiment très intéressante.
C'est la musique du film qui m'y faisait penser, et puis ces affiches qu'on a vues dans le restaurant à Corleone, mais comment se fait-il que cette mafia se soit exportée aux États-Unis? Est-ce qu'elle y a été aussi puissante qu'on a bien voulu le dire, et est-ce qu'elle est encore active? Parce que ce qui faisait le charme des trois films de Coppola, c'était aussi ce dialogue permanent entre les scènes qui se jouaient aux États-Unis et celles qui se jouaient en Sicile.
Il y a aux États-Unis une Cosa Nostra qui est tout à fait distincte de celle de Sicile, Cosa Nostra italo-américaine, qui est à l'aube du XXIe siècle une entité criminelle encore très puissante et très bien implantée. Elle contrôle ou elle influence de larges secteurs économiques, les docks, le BTP, le ciment, etc. Et cette Cosa Nostra italo-américaine est née très largement de l'immigration des Siciliens, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, d'une part, et d'autre part, de la fuite d'un certain nombre de chefs, de capos siciliens dans les années 20-30, au moment de la répression fasciste par le préfet Maury. Voilà.
Oui, mais il faut quand même, c'est-à-dire, Cosa Nostra, c'est ça, Cosa Nostra, c'est la mafia. Cosa Nostra, parce que Cosa Nostra en italien, ça veut dire ça, c'est notre business, c'est notre affaire. Ça vient de là. Bon. Et encore une fois, moi, je voudrais qu'on voit pas seulement le microscopique, je voudrais aussi voir le macroscopique. N'oublions pas que quand Kennedy a voulu envahir la baie des cochons, Cuba a fait appel à la mafia, à M. Sam Giancana. Ça, c'est dans les livres d'histoire, si j'ose dire.
Qu'est-ce qu'il lui a demandé?
D'organiser le débarquement. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Et je peux vous citer d'autres exemples dans d'autres pays. La mafia, ce n'est pas seulement cette petite chose. Et nous-mêmes, quand on dit... C'est ça que moi, je me tuerais.
Les mafieux en pantalon de velours dans leur ferme.
Mais
ça.
Non, alors, mais pas non. Douter. C'est ça que je vous dis. Quand vous me dites Totorina ou Provenzano, ce sont de petits soldats, ce sont des soldats. Mais qui permet à ces soldats d'exister? Qui les protège? Qui leur assure l'impunité? C'est ça qu'il faut savoir.
Nous allons maintenant passer aux questions SMS et Internet. Existe-t-il des liens entre les différentes mafias du monde? Qui a envie de...
Je veux bien m'y coller. On va dire qu'il n'y a, a pas de super mafia, d'entité criminelle qui contrôlerait la planète, ou on n'est pas en voie de mondialisation des organisations criminelles. En revanche, il y a des joint ventures, oui, entre les différents. On est dans une économie, finalement, tout ce qu'il y a de plus classique, bien qu'elle soit illégale. Et donc, on voit, par exemple, au Japon, les Japonais avec les Russes d'en face, hein, juste de Vladivostok, qui font du business, armes, voitures, etc. Avec les Chinois, par exemple, pour la sphère asiatique. Je connais mieux. Effectivement, les Japonais travaillent avec les Chinois implantés un peu partout, que ce soit la Malaisie, Singapour, Thaïlande. On a des cas avec les Russes, on a dans les mafias, maintenant aussi avec des Lituaniens, des Pays-Baltes qui leur envoient des filles, etc. Donc on voit comme ça des alliances au gré, on va vendre de la coke contre de l'herbe à certains endroits, s'échanger des stupes, etc. Donc oui, il y a un opportunisme. Le crime organisé ne se nourrissant que de l'opportunité qui s'offre à lui, des failles, etc. Il n'y a aucune raison qu'ils ne s'entendent pas pour businesser ensemble.
La mafia est-elle en cheville avec le terrorisme international? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'il peut y avoir ponctuellement, un parcours commun?
Alors, il faut comprendre que le monde des mafias et le monde du terrorisme sont deux univers radicalement différents. Le monde du terrorisme est un monde qui est guidé par des objectifs politiques, alors que le monde des mafias a des objectifs économiques. C'est le profit. Comprenez bien qu'entre Cosa Nostra de Sicile, qui est baigné dans le catholicisme, et puis les amis de Ben Laden, qui sont baignés dans un islam radical, il ne peut pas y avoir de connexion. Bon, on est dans deux mondes différents. Ponctuellement, il peut y avoir des points de coopération. Si une entité salafiste fondamentaliste implantée à Naples cherche des armes, eh ben elle va les acheter auprès de qui a des armes, c'est-à-dire auprès de la Camorra. Voilà. Mais s'imaginer qu'il y a un vaste cocktail dans lequel on a des terroristes et des mafieux, non, tout ça n'a aucun sens et ne correspond à aucune réalité.
Peut-on comparer la Corse à la Sicile? Alors, la réponse qui veut.
Je peux bien répondre.
Allez-y.
Bon, alors, ce sont deux îles. J'en ai parlé tout à l'heure.
Vous ne comptez pas prendre de location de vacances, c'était à Porto Vecchio. Donc voilà.
Ce sont deux îles et on pourrait mettre la Sardaigne dedans pour parler de mentalité commune. Vous savez bien qu'en Corse, il existe encore de jeunes gens de 20 ans qui se font assassiner pour une vieille rancune familiale qui perdure comme ça. Donc, ça existe. En Sardaigne, ça existe. Il y a encore quelques mois, quelqu'un a tué la fille de quelqu'un qu'il avait offensé 20 ans avant. Donc, ça existe. Maintenant, en Corse ou en Sardaigne, existe-t-il une organisation criminelle qui contrôle le territoire par le racket, par les détournements de fonds publics, de fonds européens, etc. Non. Ensuite, en Corse, les dés sont pipés parce que il y a la mouvance nationaliste qui a occupé le terrain pendant 30 ans, qui pour avoir un peu de fonds a dû quand même commettre eux aussi. Donc c'est pas comparable, mais on peut toujours y trouver des petits points communs.
Ça vous fait réagir, Timo?
On compare ou on compare pas?
Il y a un très joli proverbe sicilien qui dit « La meilleure parole est celle que l'on ne dit pas ».
Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire, en l'occurrence? Par rapport à la question qui nous est posée, c'est est-ce que... Voilà. Donc vous trouvez qu'on est assez silencieux en Corse aussi, donc, si je comprends bien.
Disons qu'il y a des traits culturels communs. Vous savez, 5 siècles avant Jésus-Christ, le grand historien Thucydide disait déjà que la réalité première et fondamentale dans le bassin méditerranéen, c'est la famille, c'est le clan.
Lucio Tinelli qui me fait oui avec la tête. La mafia italienne a-t-elle des activités en France?
Je ne crois pas à ce que j'appelle le syndrome Tchernobyl, vous savez, les nuages radioactifs qui s'arrêtent aux frontières.
Ça ne s'arrête pas
sans Remo. Voilà. Alors, on en a une preuve quasiment tous les ans, c'est que tous les ans, la police française applique des mandats d'arrêt internationaux pour venir arrêter en France des gens de Cosa Nostra, de la Camorra, de la Drangheta, beaucoup de Calabrais en effet surtout, qui viennent se réfugier en France, et pas seulement pour échapper à la répression, mais aussi pour se faire soigner.
De Marseille.
Voilà,
Provenzano oui. a été soigné dans une clinique de Marseille.
On a même dit que ça avait contribué à faire son portrait robot. Enfin, que ça avait aidé à faire son portrait
robot.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais...
Pour un petit peu, cette fois, contrer la théorie du complot, la preuve qu'on recherchait Provenzano, c'est que quand même, les magistrats ont découvert qu'il s'est fait soigner fin 2003 dans une clinique à Marseille, et que quand même, grâce à ça, pour aller dans votre question, ils ont retrouvé son ADN, pour la première fois, ses empreintes digitales, pour la première fois, et des témoignages qui l'ont décrit. Oui. À partir de ça, on a fait un portrait robot, qui, pour certains, ressemble à ce qu'on a vu.
Il est assez transparent. Hein.
Pour d'autres, moi, non, je trouve que ça ressemble
à... Il est clair que la justice italienne se bat et ce qui vient d'arriver avec Provenzano est clair.
Il était temps de le dire après une heure d'émission. Monsieur.
Mais bien sûr, c'est pas parce qu'ils ont attendu qu'il y ait un vide du pouvoir pour l'arrêter.
Doit-on avoir peur de se rendre en Sicile ?
Non, parce qu'il y a en plus le mythe du respect de l'étranger. Moi, Sicilien, je peux me faire voler. Un étranger, jamais.
Romano Prodi va-t-il lutter contre la mafia ? Est-ce qu'il en a parlé pendant la campagne électorale ? Et voilà.
Oui, il s'y est engagé, mais enfin, Romano Prodi a déjà été au pouvoir.
Oui, hein, c'est ce que j'allais vous dire, c'est pas la
pendant, pendant plus de deux ans. L'idée, c'est qu'il n'est pas tout seul, mais il est évident, alors je vais faire plaisir à notre ami sicilien, il est évident que Romano Prodi enverra beaucoup moins de signaux favorables aux mafieux que Berlusconi ne l'a fait.
Que fait une mafia en temps de guerre dans un pays ?
Elle continue son business ?
Bah, pas de politique, généralement.
Les Américains ont débarqué en Sicile avec l'aide de la mafia. Ils nous ont envoyé Sam Giancana, ils nous ont envoyé Lucky. Luc Luciano, et ils ont fait une chose extraordinaire. Ils nous ont envoyé un colonel qui s'appelait colonel Charles Poletti, qui est venu avec le général Patton, lequel il a battu monnaie. Il a fait de la monnaie qui était pour à lui, et puis il distribuait, il y avait la monnaie. La monnaie de M. Charles Poletti.
Donc, pragmatique.
Voilà ce qu'il faut pour la guerre.
Que veut dire le mot mafia ? Est-ce que le mot a un sens ou une traduction littérale ? Je pense que c'est...
En réalité, le mot mafia n'est pas utilisé par les mafieux. Les mafieux, entre eux, disent Cosa Nostra, notre chose, ça désigne un entre-soi. Le mot mafia est un mot dont on ignore l'origine, il y a mille explications, mais qui est utilisé d'abord par les journalistes ou par la police, mais qui fait rire les mafieux américains ou siciliens. Eux, ils disent notre chose. Voilà.
Ouais. Quels sont... Oui, vous y ajoutez quelque chose ?
Juste, il y a effectivement 100 000 étymologies, mais la plus probable, la plus sérieuse, c'est que ça dériverait du terme mafioso, de l'adjectif, qui lui dériverait d'un terme arabe, marfoud, marfouz, ce qui est finalement bien à l'image de la Sicile dans son histoire.
Et qui veut dire marmoud, marfouz ?
Récuser.
Quels sont les derniers crimes imputés à la mafia ? Enfin, je veux dire, voilà, il y a de l'activité, on est au courant. De temps à autre, quand on voit un mort dans la rue, on dit, voilà, on sait que c'est eux. Jean-François Guéraud.
Méfions-nous d'une méprise. On associe souvent mafia à violence.
Oui.
Bon. Le fonds de commerce d'une mafia, ce n'est pas la violence. Une mafia a toujours une stratégie d'invisibilité. Passer sous le radar de l'opinion, la répression. Une mafia est une organisation criminelle mature, donc elle évite la violence. Elle fait tout pour qu'il y ait le moins de morts possible. Son fonds de commerce, c'est l'intimidation. Voilà. Pas la violence.
La mafia est-elle un mal nécessaire ? Si quelqu'un a envie de répondre en 10 secondes, sur fond générique. Pardon ?
Non.
Très bien, il suffisait de nous répondre ça. Je vous remercie beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette émission. Et j'en profite pour vous annoncer le thème de notre émission de demain. Je pense que le simple titre devrait vous faire comprendre. 80 ans, Charles attend toujours. Nous célébrerons donc l'anniversaire de la reine Elisabeth d'Angleterre. Elle est née le 21 avril 1926. Toutes les questions que vous souhaitez nous poser, SMS ou Internet, la concernant la succession, Charles et même William, n'hésitez pas à nous les envoyer tout de suite et nous ferons aussi le tour du Commonwealth dans cette émission. Passez une très bonne soirée. À demain soir 17h50. Merci.